Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour Jacques Delarosière.
Bonjour.
Nous allons parler aujourd'hui de la crise des crédits hypothécaires américains, dite crise des subprimes, ces prêts immobiliers à risque caractéristiques aux États-Unis. Une crise qui a éclaté à l'été 2007 et qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les grandes places boursières mondiales. Monsieur Delarosière, vous avez dirigé le Fonds monétaire international ainsi que la Banque de France et la Banque européenne Bird, et vous êtes actuellement conseiller auprès du président de la banque BNP Paribas et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et vous avez donc observé de très près cette crise financière de l'été 2007, une crise qui n'est pas tout à fait comme les précédentes, puisque cette crise de l'été 2007 est née dans un pays prospère, les États-Unis, et non dans un pays émergent, comme on avait pu le voir par exemple en 1997. Quelle était la nature de cette crise financière de l'été 2007?
Oui, vous avez tout à fait raison de dire que la crise est née dans un pays prospère, elle est née aux États-Unis, sur un segment très particulier du marché du crédit aux États-Unis, comme vous l'avez dit, c'est celui des prêts immobiliers dits subprime. Ça demande une toute petite explication pour nos auditeurs. Le subprime, c'est une partie des prêts immobiliers, prêts hypothécaires, si vous voulez, qui est centrée sur des emprunteurs à haut risque. C'est-à-dire que ce sont des emprunteurs qui disposent de peu de revenus. On dirait ici qu'ils sont tout juste au SMIC, qui ont un passé d'emprunteurs assez aléatoire, pour ne pas dire assez heurté, et dont le rapport de l'endettement à leurs revenus est très élevé. Et donc, ce sont des emprunteurs qui risquent de ne pas pouvoir honorer leurs échéances si les situations se détériorent. Alors, c'est ce marché qui s'est beaucoup développé aux États-Unis depuis quelques années, qui, en effet, a fait l'objet d'un certain nombre de défauts à la fin de l'année 2006, surtout au début de l'année 2007. Défauts qui ont pris beaucoup d'ampleur au cours du premier semestre de l'année 2007 et ont amené ce qu'on appelle les agences de notation, c'est-à-dire les agences qui ont comme mission de donner des cotations, des notes à la qualité des crédits bancaires. Et les agences de notation ont donc, face à ce qu'on appelle les delinquencies, c'est-à-dire les défauts qui montaient en flèche, ont commencé à détériorer de manière très marquée ces crédits.
Ces personnes ne pouvaient pas honorer leur crédit.
Ces personnes ne pouvaient plus honorer leur crédit et donc les banques étaient obligées d'exercer un droit de reprise, si vous voulez, de gage sur l'immeuble en question pour le mettre en vente et rentrer dans leur crédit.
Et alors, en quoi est-ce que ceci concerne l'ensemble de l'économie financière?
Vous avez raison de poser cette question parce que jusque-là, mon histoire est de peu d'intérêt. Car si c'est un petit segment du marché immobilier américain qui est concerné, so what? C'est pas une grande histoire. Alors, ce qui fait que c'est devenu un problème mondial, c'est que, et là il faut remonter un tout petit peu en arrière, quelques années en arrière, c'est que depuis quelques années, les banques ont pris l'habitude de titriser un certain nombre de crédits qu'elles font au profit d'emprunteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de garder ces créances sur des emprunteurs dans leur bilan et de faire en sorte que ces emprunteurs les remboursent à temps et que ces crédits s'épuisent naturellement, les banques, depuis quelques années, procède à ce qu'on appelle de la titrisation, c'est-à-dire que elle rassemble des paquets, si je puis dire, de crédits, par exemple des crédits subprime, mais ça peut être aussi d'autres formes de crédits, ça peut être des crédits prime, c'est-à-dire des crédits à de très bons emprunteurs, ça peut être toutes sortes de crédits. Elle les rassemble dans des paquets qu'elles font commercialiser par des structures appropriées, sur le marché international des capitaux. Et donc, ces crédits sortent de leur bilan et entrent dans le bilan d'investisseurs ou le portefeuille d'investisseurs qui peuvent être des SICAV, qui peuvent être des fonds de pension, qui peuvent être des institutionnels, qui achètent sur le marché ces paquets de crédits. Et pourquoi les achètent-ils ? Ils les achètent parce que nous avons vécu depuis quelques années, en grande partie sous l'influence de la politique monétaire très accommodante de la Fed aux États-Unis, nous avons vécu une période de bas taux d'intérêt, car les liquidités étaient abondantes. Et quand les taux d'intérêt sont bas, la nature humaine et financière veut que on cherche des taux de rendement plus élevés que, disons, les bons du Trésor, qui rapportent très peu. Et ce faisant, en cherchant des actifs qui rapportent davantage, on entre aussi dans des zones plus risquées, car qui dit meilleur rendement dans un contexte de taux d'intérêt faible dit plus grand risque. Et donc, un certain nombre d'institutions, telles que je les ai mentionnées, ont acheté ces paquets de crédits qui étaient sortis de leur bilan par toute une série de banques et d'institutions financières.
D'où l'aspect viral de cette crise.
D'où l'aspect viral, parce que ces paquets, même du subprime, étaient en général très bien cotés, très bien notés par les agences de notation. Et là, il faut expliquer ça avant d'en venir à la contagion. Pourquoi ces crédits, pourtant risqués dans leur essence même, étaient-ils notés vraiment dans le quartile très supérieur des notations, c'est-à-dire triple A ou double A, parce que les agences de notation ont l'habitude de noter les crédits en fonction de leur expérience de ces agences passées. Ils font des statistiques sur les probabilités de défaut passées. Et le subprime avait traditionnellement d'assez bons taux de recouvrement. Ce n'étaient pas des crédits qui avaient entraîné des problèmes majeurs, sauf au cours de certaines périodes très limitées. Et donc le regard un peu systématiquement passéiste et statistique que les agences de notation posaient sur la qualité de ces crédits les amenait à les surnoter, si je peux employer cette mauvaise expression. Alors évidemment, à l'époque, ils ne savaient pas qu'ils les surnotaient, puisque tout allait bien, les taux de défaut, d'impossibilité de payer, n'avaient pas encore commencé. Comme je l'ai dit, ils n'ont commencé qu'à la fin de 2006 et au début de 2007, et il fallait attendre quelques mois avant de les enregistrer, ces phénomènes statistiques, et puis ensuite de procéder aux nouvelles notations dégradées. Alors, quand les investisseurs institutionnels ont réalisé que ce qu'ils croyaient être du double A ou du triple A était soudainement détérioré très fortement. Souvent, d'ailleurs, ces investisseurs institutionnels, c'est le cas des compagnies d'assurance, par exemple, des fonds de pension, sont tenus par leur statut de n'avoir que les meilleurs crédits dans leur portefeuille. Quand elles ont donc vu les détériorations qu'infligeaient les agences de notation à leurs crédits, elles ont pris peur. Elles ont voulu se débarrasser de ces crédits, elles ont donc vendu, et ce faisant, elles ont précipité la chute de ces crédits, et en plus, et c'est là l'aspect viral dont vous parliez à très juste titre, elles se sont dit, si vraiment ce paquet-là de sapin est si dangereux et si rapidement détérioré, il peut en être de même d'autres paquets de crédits titrisés que j'ai achetés par ailleurs et qui en fait n'avaient aucun signe de vulnérabilité réelle. Et donc, c'est un peu comme ça que l'enchaînement s'est passé. Alors, c'est une crise qui est dangereuse parce que lorsque un marché devient soudainement complètement vendeur et qu'il n'y a pas en face d'acquéreurs pour ses crédits, les institutions dont j'ai dit qu'elles n'étaient pas toutes bancaires qui portaient ces crédits, c'était des hedge funds, comme on les appelle, des véhicules spécialisés qui vendaient, commercialisaient ça auprès d'investisseurs. Et ces véhicules ont vu se détériorer soudainement leurs actifs et ils n'ont pu trouver ces véhicules le financement qui leur était nécessaire pour leurs échéances. Et donc, il y a eu une crise de liquidité qui a fait que toute une série de véhicules, de réceptacles, si vous voulez, de ce genre de crédit dit structuré, ont eu du mal à faire leur financement. Car il faut comprendre que les véhicules dont je parle, qui achètent ce genre d'actifs, ces paquets bancaires pour les céder et ensuite les commercialiser auprès d'investisseurs, ont besoin de se refinancer parce que les échéances tournent et il leur faut de l'argent pour transformer en quelque sorte ces liquidités à très court terme qu'elles obtiennent sur le marché monétaire en actifs à plus long terme. Et lorsque le marché de ce qu'on appelle le commercial paper, c'est-à-dire le marché monétaire qui permet à ce genre de véhicule de se financer, s'est tari parce que les investisseurs institutionnels n'ont pas voulu même toucher le marché des commercial papers qui irriguent ces véhicules dont ils souffraient par ailleurs de la qualité de leurs actifs, alors ces véhicules sont entrés en grande difficulté. Beaucoup d'entre eux étaient soutenus, ces véhicules, par des lignes de crédit que les banques initiatrices de ces opérations leur avaient consenties. Ça, c'est le meilleur des cas. Le véhicule, ne trouvant plus d'argent à très court terme pour faire ses échéances, se retourne vers la banque sponsor, si je puis dire, frappe à sa porte et dit « j'ai une convention avec vous qui m'assure une liquidité et donc je viens activer cette ligne de liquidité puisque je ne peux plus trouver sur le marché du commercial paper, sur le marché monétaire, les liquidités nécessaires ». Alors ça, c'est le meilleur des cas, car les banques ont été obligées à ce moment-là d'honorer leurs engagements et, ce faisant, de reprendre dans leur bilan, car quand vous activez une ligne de crédit, vous reprenez la créance dans votre bilan. Et ça, c'était le meilleur des cas. Mais il y avait des cas où ces véhicules n'étaient pas liés par des conventions de soutien de liquidité à des banques ou l'étaient de manière très insuffisante, très partielle. Et dans ces cas-là, les véhicules ont été obligés d'être liquidés, sauf si les banques, pour répondre, si vous voulez, au risque de réputation qui les engageait néanmoins, les soutenaient au-delà de leurs conventions initiales. Alors c'est un peu ça, je m'excuse d'être un peu technique, mais c'est un peu ce mécanisme à la fois de la titrisation et du fait que ces organismes de commercialisation de ces paquets de crédit sont très tributaires du marché à très court terme. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu une crise de liquidité sur les marchés monétaires à court terme. Alors, heureusement que les banques centrales sont intervenues massivement pour faire en sorte que la liquidité du marché monétaire et du marché entre les banques soit rétablie.
On marque une toute petite pause.
Il a eu pour amis et modèles Pablo Picasso et Jean Cocteau. Il s'est passionné pour la corrida, les nus, les gitans et les étangs. Il est le premier photographe à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Lucien Clergue est venu dans notre studio pour retracer son parcours dans une émission en habit vert. Cette émission est disponible sur Canal Académie par le moteur de recherche en tapant Clergue ou en passant par la liste des académiciens.
Jacques Delarosière, cette crise s'est répandue très rapidement en Europe et au Japon, et surtout au Japon plus qu'en Europe même. Le fait que ça touche aussi les autres bourses mondiales est un phénomène, on peut pas lutter contre ça, c'est un phénomène inexorable.
Oui, dans la mesure où ces ventes de crédit sont globales, qu'elles sont offertes à un marché qui est unifié maintenant, qui est généralisé, fait que ce genre de crédit peut se retrouver partout. Il s'est en effet trouvé au Japon, il s'en est retrouvé dans les pays européens, il s'en est même trouvé en Chine, et il s'en est trouvé bien entendu beaucoup aux États-Unis. Et donc, c'est ce qui explique, si vous voulez, le caractère très, très global de la crise. Alors là, je voudrais partager avec vous une réflexion. On a beaucoup dit, dans les années qui ont précédé cette crise du mois d'août de 2007, on a souvent dit, c'est un très grand progrès que cette manière de diffuser les crédits qui autrefois restaient des crédits dans les bilans des banques, c'est un très grand progrès que de pouvoir les commercialiser d'une manière aussi large et d'en faire profiter l'ensemble des marchés financiers. Alors c'est vrai en partie, mais c'est aussi vrai avec un bémol. Alors il est vrai que le fait pour les banques de pouvoir sortir de leur bilan très rapidement des crédits qu'elles ont accordés à des emprunteurs fait tourner, si je puis dire, les bilans des banques de manière beaucoup plus rapide. Autrefois, si elles restaient avec leur emprunteur, il fallait attendre 3 à 5 ans pour que les crédits soient remboursés et donc la rotation des bilans était relativement lente. Si vous pouvez sortir très rapidement les crédits que vous avez fabriqués de votre bilan, vous avez recréé de la place du point de vue de vos ratios bancaires pour en refabriquer d'autres. Et donc, on a assisté depuis quelques années à une grande accélération de la vitesse de circulation du crédit. Et c'est une thèse que j'ai développée dans plusieurs articles il y a quelque temps. Alors, ce n'est pas mal pour l'économie mondiale que d'avoir un système qui finance plus rapidement les entreprises, les projets, parce que ça permet de mobiliser des ressources supplémentaires et c'est sans doute en partie à l'origine des taux de croissance très rapides qu'on a connus depuis quelques années. Ça mobilise du capital. Et donc, je ne jette pas la pierre à cette méthode de titrisation. Mais là où le bémol doit être mis en place, c'est que un certain nombre de dérives ont accompagné ce mouvement de titrisation. Une première dérive, c'est que c'est tentant, quand vous pouvez sortir très vite les crédits de votre bilan, c'est tentant de ne plus regarder avec autant de vigilance la qualité de votre emprunteur final que lorsque vous portez ce risque jusqu'au bout. Et sans vouloir faire de généralisation, parce qu'il y a des banques qui ne sont pas tombées dans cette tentation, il y en a d'autres qui ont accordé, avec un laxisme certain, des crédits à des emprunteurs qui n'auraient pas dû être l'objet de ces emprunts ou de ces prêts. C'est le cas notamment des dérives qu'a connu le marché du subprime depuis 3 ans environ. Le subprime a été, comme je l'ai dit, une manière, je dirais, sociale de financer l'immobilier aux États-Unis. Ça a permis à des gens qui avaient des ressources modestes d'accéder au crédit, ce qui n'était pas le cas traditionnellement. Et donc, pendant des décennies, le subprime a joué un rôle social très utile dans la propriété immobilière pour des gens qui avaient des revenus modestes. Mais depuis quelques années, le subprime n'est plus ce qu'était le subprime d'autrefois. Il y a eu plusieurs modifications peu enregistrées, notamment par les agences de notation, ce qui est un vrai problème. Une première dérive, c'est que on ne demandait pratiquement plus d'apport personnel. Donc, le taux d'endettement par rapport aux ressources devenait excessif. La deuxième dérive, c'est que on accordait des sortes de périodes de grâce de 2 ans, qu'on appelait teasing periods, dans lesquelles pratiquement on n'avait rien à payer, et qui évidemment incitait les emprunteurs à se dire « Bon, ben pendant 2 ans, je n'ai pas de mensualité à payer, et pour après, mon banquier me dit que je n'ai pas à m'en faire, parce que, étant donné la hausse des valeurs immobilières, ma maison aura pris de la valeur pendant ces 2 ans, et donc l'accumulation de plus-values, si vous voulez, même si je ne les monétise pas, ces plus-values, mais les plus-values latentes qui sont comprises dans ma maison, me permettront d'accéder à des suppléments de crédit qui, eux, me permettront de faire face à mes échéances. Ces dérives étaient très dangereuses. À certains égards, elles étaient coupables, dans la mesure où elles incitaient les emprunteurs à ne pas tenir compte, si vous voulez, de leur capacité de remboursement. Et donc ça, c'est une dérive que je voulais signaler. Et évidemment, c'est encore plus questionable, comme disent nos amis anglo-saxons, de voir une banque faire ça et ensuite se précipiter pour sortir ces crédits-là de son bilan pour les vendre à des gentils SICAV qui se trouvent de par le monde. Et avec des agences de notation qui mettaient des doubles ou des triples A à ces crédits. Ça, c'est une dérive. Il y a eu une deuxième dérive qui explique un peu les problèmes que nous avons maintenant à notre porte, c'est l'attrait du gain. Parce que si vous réfléchissez, une institution financière qui fait de la titrisation à outrance, je ne parle pas de la titrisation normale, mais celles qui font de la titrisation à outrance, gagne sur tous les tableaux. Elle gagne en matière de commission de titrisation, elle gagne dans la mesure où elles sortent de leur bilan des crédits qui sont risqués et qui leur auraient mangé, si je puis dire, du capital que les autorités réglementaires leur demandent de mettre en face de leurs engagements. Et donc, on a un peu abusé des mécanismes financiers de sophistication. J'ajouterais que la complexité des produits qui étaient ainsi distribués de par le monde et qu'on appelle des produits structurés, parce qu'ils étaient en effet à la fois packagés et structurés, la complexité de ces produits qui mêlaient des crédits sans problème à des crédits à problème a fait que beaucoup d'investisseurs ne comprenaient pas ce qu'ils achetaient. Et ils se reposaient sur les agences de notation dont j'ai dit que leur méthodologie était insuffisante.
Ils auraient pu regarder d'un peu plus près
Je trouve que, à partir du moment où les déviations que j'ai indiquées, et qui sont des déviations récentes, celles sur le subprime par exemple, sont devenues pratiques courantes, je trouve qu'une agence de notation ne devrait pas seulement dire « j'attends les défauts avant de baisser ma note », elle devrait dire la probabilité du défaut compte tenu de ces déviations, du fait qu'il n'y a plus d'apport initial, que les taux d'endettement deviennent excessifs. Je pense que la dynamique devient dangereuse et c'est tôt dans le processus que je réduis mes notes. Et si on avait fait ça, alors tous ces grands institutionnels qui avaient besoin de double ou de triple A, ils ne les auraient pas achetés. Et donc, le phénomène aurait été réduit. Mmh. Autrement dit, les agences de notation, comme les banques, comme ce que j'appelle aussi les non-banques, c'est-à-dire tous ces véhicules qui ont fabriqué ces produits, ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé cet été.
Nous tenterons de tirer les leçons de cette crise un tout petit peu plus tard dans cette émission. Peut-être on peut continuer sur l'enchaînement de cette crise financière à un niveau mondial. Vous l'aviez dit, grâce à l'intervention des banques centrales, la crise a été résorbée en grande partie en quelques semaines. Mais est-elle réellement finie ? Nous sommes mi-octobre 2007. Est-ce qu'elle est finie aujourd'hui ?
Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que l'intervention des banques centrales a permis d'éviter une crise totale, si vous voulez, des marchés monétaires, qui aurait été sanglante à la fois pour le système financier, mais surtout pour l'économie réelle.
L'intervention des banques centrales vous a semblé assez forte pour...
Elle a été très rapide. Oui. Et les montants ont été extrêmement importants. Et je n'ai pas de reproche à faire aux banques centrales. Elles ont affiné, si vous voulez, leur méthode d'intervention au fur et à mesure des semaines et des besoins du marché en appuyant un peu plus sur les crédits à 3 mois, alors qu'au début, c'était surtout du très court terme. Et donc, elles se sont adaptées à la crise. Alors, est-ce que c'est fini ? Pas tout à fait. Parce que vous voyez encore des poches de liquidités insuffisantes sur certains marchés. Vous voyez des écarts de taux entre, disons, le marché monétaire à 3 mois, qui est celui qui pose problème, et le taux des bons du Trésor à 5 ans. Et vous voyez que, paradoxalement, il faut payer significativement plus cher pour emprunter à 3 mois que le Trésor ne le fait pour emprunter à 5 ans. Et ça, c'est toujours le signe, cette courbe de taux inversée. En général, ce sont les échéances plus longues qui sont plus coûteuses. Ces échéances inversées montrent qu'il y a un resserrement de la liquidité sur le marché monétaire. Donc, on ne peut pas dire que le marché soit complètement revenu à la normale. Il est en cours d'apaisement, mais ce n'est pas encore tout à fait normal. Et je pense qu'il faudra encore attendre le résultat des banques pour voir comment elles ont souffert ou pas souffert de ces épisodes de crise de liquidité pour que le marché devienne plus confiant, car c'est vraiment fondamentalement une question de confiance dont nous parlons depuis un quart d'heure, et pour que on se dise, oui, les banques finalement ont surmonté cette difficulté, elles ont eu à faire des provisions, ce qui est normal, mais c'est absorbable, et donc on peut continuer maintenant à leur reprêter sur le marché interbancaire. Donc ça, c'est une première chose qui est encore en attente. Il y a eu quelques résultats de banques américaines, mais il faut attendre davantage de résultats. Et la deuxième chose, c'est que le marché du subprime, qui a été à l'origine de tout ça, n'est pas encore complètement sorti de ses problèmes. Parce que le subprime, c'est un peu comme des vins. Vous avez des crus. Vous avez le cru 2005, le cru 2006, le cru 2007. Et les périodes de 2 ans, bien évidemment, s'étalent dans le temps. Le subprime qui a été donné ou consenti à un emprunteur en avril 2007, ce n'est qu'en avril 2009 qu'on verra si cet emprunteur a de vraies difficultés à rembourser, si le marché immobilier s'est vraiment très détérioré aux États-Unis, etc.
Donc la crise pourrait avoir des hoquets encore.
Oui, il peut y avoir des... Je crois que le terme est très juste, il n'y avait pas pensé. Il peut y avoir des hoquets. Et on va voir comment les choses vont se passer. Le vrai problème, à mon avis, c'est quelle va être l'influence de ce qui s'est passé sur le marché immobilier américain, qui est très important, sur l'économie réelle des États-Unis. C'est peut-être
évidemment
une question que vous vouliez me poser.
Évidemment. Nous marquons une toute petite pause et on se retrouve juste après.
Les académiciens de l'Institut de France s'expriment au micro de Canal Académie. Retrouvez le témoignage de François Jacob de l'Académie française dans notre médiathèque en libre écoute et libre téléchargement. François Jacob évoque sa carrière de biologiste, prix Nobel de médecine, ainsi que son entrée à l'Académie française. Un témoignage exclusif sur Canal Académie.
Monsieur de la Rosière, évidemment, donc la grande question, c'est l'impact sur l'économie réelle, aux États-Unis évidemment, mais également dans le monde entier. Certains analystes financiers évaluaient le risque à 20% il y a quelques mois d'impact réel sur l'économie. Ils sont réévalués à 40% dernièrement. Quelle est votre évaluation ?
Moi, je ne suis pas un prévisionniste en matière de macroéconomie, donc mon avis... Je ne compte guère dans ce domaine, je ne fais pas d'études économétriques pour avoir les clés de la réponse. Non, ce que je vois, c'est que les organismes qui font profession de prédire l'économie mondiale sont en train de réviser à la baisse les taux de croissance qu'ils avaient initialement escomptés pour les États-Unis en 2008. Le consensus reste néanmoins positif. Il est autour de 2% de croissance, ce qui est encore très confortable. Ça sera peut-être pas 2%, ça sera peut-être 1,5%, quelque chose de ce genre. Si, parce qu'il y a un si derrière ces prévisions relativement optimistes, si les ménages américains décident de ne pas reconstituer de manière très abrupte leurs épargnes. Vous savez que le taux d'épargne des ménages américains est proche de zéro. Si vous comparez les revenus disponibles des ménages américains en flux à leur épargne, vous voyez qu'ils consomment leurs revenus disponibles. Ils ne mettent pas de côté. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Alors, comme les circonstances sont beaucoup moins favorables et que ce qu'on appelle le wealth effect, c'est-à-dire l'effet richesse, c'est-à-dire quand on a, par exemple, une maison ou un portefeuille de titres qui a beaucoup augmenté, on se sent plus riche. Et comme on se sent plus riche, on se dit « je n'ai pas besoin d'épargner davantage, je peux consommer, puisqu'en réalité, j'ai mon stock de richesse qui augmente. » Et donc, d'une certaine manière, mon épargne augmente aussi, patrimonialement. Alors, les Américains ne peuvent plus tout à fait dire ça. parce que il y a un phénomène qui est en train de se produire aujourd'hui et on va attendre de voir comment il se profile. C'est le plafonnement, voire la réduction des prix des maisons. Alors si, comme on le voit maintenant, d'après les premières statistiques, il devait y avoir une baisse sensible du prix des maisons, alors ça ne serait plus un wealth effect, un effet richesse, ce serait au contraire un effet contraire. Les gens se sentiraient plus pauvres ou moins riches. Et l'inconnu qui est derrière votre question, c'est que deviendra à ce moment-là l'épargne américaine ? Est-ce qu'elle restera proche de zéro ? C'est-à-dire les gens continueront à consommer leur salaire sans s'occuper de reconstituer une épargne ? Ou bien est-ce que, comme il est arrivé dans des crises précédentes, ils auront tendance à consommer moins, à ne pas acheter de troisième voiture, à être plus raisonnable et à reconstituer une épargne financière. Alors, si c'était ça, l'effet sur l'économie peut être très substantiel. Vous savez que la consommation aux États-Unis, ça doit faire à peu près 70 à 75% du produit intérieur brut américain. Et si les ménages, je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais au lieu d'épargner zéro, épargner 2% de leurs revenus disponibles, ce qui serait très inférieur à ce que nous connaissons en France ou dans beaucoup d'autres pays, eh bien, 2% à 70%, ça fait 1,4% du PIB. Donc, c'est un facteur de très haute sensibilité sur l'économie américaine. Et les statistiques dont je vous ai fait l'écho, celles qui disent, non, ça entre 1,5 et 2, voire un peu plus que 2% de croissance, elles sont toutes basées sur le maintien de niveaux très bas d'épargne, pas plus de 1%.
Est-ce qu'à contrario, on ne pourrait pas penser que le fait justement que le marché immobilier pourrait baisser et risque de le faire, va permettre au contraire à des familles qui ne pouvaient pas acheter d'acheter et d'ouvrir le marché immobilier à plus de personnes et donc de relancer l'économie?
Vous avez parfaitement raison, le marché se corrige de cette manière-là et il peut y avoir des nouveaux accédants à la propriété qui bénéficieront des ventes forcées et du fait que les prix se réduisent. Et en effet, c'est comme ça que le marché fonctionne. Les prix ne tombent pas comme dans un puits jusqu'à des valeurs proches de zéro. Le marché fonctionne et les gens se disent « c'est une bonne affaire, j'achète ». Et c'est comme ça que les marchés se corrigent. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se corrigent aussi sur le plan des crédits structurés dont je vous ai parlé. Il y a déjà des gens qui rachètent ces crédits à bateau et qui ont déjà fait de très bonnes affaires. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas dramatiser ce phénomène. Mais si, d'une manière plus globale, c'était ça le sens de ma remarque, les Américains revenaient vers des taux d'épargne plus conformes, si vous voulez, aux moyennes historiques, qui oscillent autour de 8%, s'ils revenaient, ne serait-ce que très graduellement, à des chiffres même très inférieurs à ceux-là, on peut avoir un effet global sur l'économie.
Alors, d'après le calcul du professeur Ed Limer, qui est à l'université de Los Angeles, 8 crises immobilières américaines sur 10 ont débouché dans l'histoire sur une récession. Et seules 2 périodes, a-t-il noté, y ont échappé. Ce sont les guerres de Corée et du Vietnam, puisque les dépenses militaires ont alors servi de moteur de substitution. Est-ce que, là encore et de façon tragique, la guerre en Irak pourrait sortir les États-Unis d'affaires ?
Je ne crois pas qu'on puisse tout à fait comparer, parce que, bon, d'abord, les effets économiques de la guerre d'Irak, ils sont un peu derrière nous, puisque c'est un conflit qui date déjà de plusieurs années, que la tendance est plutôt maintenant un certain repli. Et donc, je pense pas qu'il puisse y avoir un boost phénoménal dû à la guerre d'Irak. Mais bon, ça joue, oui, à la marge, ça peut jouer. Alors, est-ce que on peut en déduire que l'économie américaine va passer par une période de récession? Je n'en sais rien. Vous savez que la récession, c'est définie en général par 2 trimestres consécutifs de caractère négatif. Ça peut être un phénomène assez réduit. Je vous rappelle que l'économie américaine a connu une récession. C'était en 2001 et ça n'a pas bouleversé le monde. Et comme je crois que la probabilité retenue par les économistes d'une récession est plutôt inférieure à 50%, comme vous l'avez signalé vous-même, on est dans une situation où les choses devraient se passer relativement normalement.
Est-ce que la crise aux États-Unis pourrait toucher l'économie réelle en Europe ?
L'Europe est commercialement très intégrée au sein de l'Union européenne et de l'Europe occidentale. Mais il y a cependant, je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, mais il doit y avoir au moins 70% du commerce qui se fait à l'intérieur de l'Europe. Vous pouvez peut-être vérifier ça. Mais il y a tout de même une trentaine de pourcents qui se font sur l'extérieur. Alors, bien entendu, un ralentissement marqué de l'économie américaine aurait son impact sur un certain nombre d'exportations européennes vers les États-Unis. Et cet impact serait d'autant plus marqué si un certain nombre de pays d'Asie, notamment le Japon et aussi la Chine, conservaient un taux de change assez sous-apprécié, si je puis dire, en le stabilisant, comme ils le font d'une manière plus ou moins ouverte, sur le dollar américain. Parce qu'à ce moment-là, ce serait l'Europe qui prendrait le choc, si vous voulez, de la détérioration non seulement du dollar, mais aussi des autres monnaies qui lui sont liées. Et donc, je souhaite que dans un tel cas de figure, c'est-à-dire ralentissement américain, il y ait un partage du fardeau de la baisse du dollar entre les différentes parties prenantes.
Est-ce que les pays émergents pourraient apparaître paradoxalement comme une valeur refuge et donc être épargnés par une récession mondiale? Récession est peut-être un peu fort. Est-ce que les pays émergents pourraient soutenir la croissance mondiale dans un tel cas?
Ils la soutiennent déjà parce qu'ils croissent plus vite que les pays industrialisés depuis plusieurs années. Certains d'entre eux croissent avec des taux de croissance de 10, 11% par an. C'est le cas de la Chine, mais aussi d'autres pays. Et donc, d'un certain point de vue, ce paradoxe est une réalité. Cela dit, des pays comme le Japon et la Chine, surtout la Chine qui croît très fort alors que le Japon a une croissance modérée, un pays comme la Chine est assez dépendant de ses exportations pour son taux de croissance. Il ne l'est pas autant qu'on le dit et qu'on le croit, mais il l'est un peu. Et donc, il est vrai que les pays émergents sont un facteur global de croissance de l'économie. Vous n'auriez pas les taux de croissance de 5% globalement parlant si vous n'aviez que des pays américains et européens qui croissent autour de 2,5 à 3%. Donc, c'est bien vrai que le supplément de croissance vient de ces pays-là. Il est néanmoins, c'est le cas en particulier du Japon et d'autres pays, assez tiré par les exportations. Et si le pays absorbeur d'exportations, qui est essentiellement les États-Unis, avec leur très gros déficit commercial et de balance des paiements courants, venait à connaître une croissance de la demande nettement inférieure à ce que nous avons connu, alors évidemment, ces exportations seraient affectées. C'est un phénomène qui n'est pas aussi important qu'on le croit. Prenez la Chine, par exemple. La Chine exporte à peu près 10% de son produit intérieur brut. Alors vous me direz, c'est beaucoup, 10%, ce qui est vrai. Et dans ces 10%, il y a une partie très substantielle qui va aux États-Unis. Mais en réalité, la Chine est déjà un pays qui absorbe et ce qu'on appelle des inputs, c'est-à-dire des produits qu'elle processe, qu'elle fabrique sur son territoire pour les réexporter. Et si vous prenez la valeur ajoutée vraiment par la Chine de ces 10% d'exportation, d'après ce que j'ai lu, le pourcentage n'est plus que de l'ordre de 2%. Alors, s'il devait y avoir une contraction des marchés à l'exportation, il est évident qu'il n'importerait plus d'Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande, de Corée, tout ce qu'il processe à domicile. Et donc, en réalité, l'impact serait de 2%. Mais évidemment, ce ne serait pas 2%, parce que les États-Unis vont pas tout d'un coup ne plus rien importer. Donc, même si vous aviez une décélération significative aux États-Unis et que vous aviez, je ne sais pas, 30% de réduction des imports, ce 2% serait très gérable, il serait de l'ordre de 0,5 à 0,6% du PIB chinois, lequel progresse autour de 11,5%, et donc on est presque dans l'épaisseur du trait. Alors, ce que je dis est probablement un peu caricaturé, mais c'est pour vous donner les grandes orientations. Non, je pense que l'Europe serait sans doute plus vulnérables à une décélération de la croissance américaine. Seulement, réjouissons-nous parce que les économistes, dont je ne suis que partiellement un membre, nous disent que l'économie américaine a de beaux jours devant elle, ce que je crois fondamentalement, à cause du dynamisme des marchés, de la souplesse de l'économie américaine et de la capacité à rebondir, à faire ce que vous avez dit sur le marché immobilier, etc. Et donc, il faut se réjouir du fait que, disais-je, les économistes voient encore une croissance pas loin de 2%, voire un peu plus, pour l'année 2008 aux États-Unis. Les jeux étant déjà faits, bien entendu, pour 2007. Donc, let's hope for the best. Il y a toujours de l'espoir.
Merci beaucoup, Monsieur de la Rosière.
Non,
merci pour cette analyse.
Merci.